Alors, on va vous proposer aujourd'hui une présentation. Alors, le titre a changé, n'est pas celui que vous avez vu sur le papier, sur le plan. Donc, une étude de recherche en collaboration entre deux domaines, l'informatique, qui est le mien, et les sciences de l'éducation, qui est le domaine de Denis Pascoe. Donc on est deux collègues qui travaillons au sein d'un même laboratoire, donc le CERV, qui est le Centre Européen de Réalité Virtuelle, qui est situé à Brest, qui est un centre pluridisciplinaire. Donc on travaille dans plusieurs domaines, on a des mathématiciens avec nous, des informaticiens, des sciences de l'éduc, etc. Et donc nous, on essaye de travailler sur les nouvelles technologies, de montrer que les nouvelles technologies peuvent être utilisées, par exemple, pour les apprentissages, en école. Donc notre présentation d'aujourd'hui sera donc l'utilisation d'une table interactive, et contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant où on fait un bond vers le futur, vers le tactile, et ben moi je vais faire un retour en arrière, retour vers le futur si je puis dire. Donc on va utiliser des objets, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, des objets tangibles, donc sur une table interactive. Et tout ça pour essayer de favoriser les interactions d'élèves avec ce qu'on appelle un jeu sérieux, donc les serious games maintenant, en école. Alors je vais commencer par le contexte de nos travaux. Donc le contexte est d'utiliser des tables interactives à objets tangibles pour favoriser les apprentissages scolaires. Donc on a mené une première étude en 2011, donc tout a découlé de ça. Donc une première étude, on est parti en école avec une table interactive, premier modèle, avec des objets, et l'idée c'était d'essayer de mettre cette technologie en école. Là, la première application, c'était un jeu pour les petits de maternelle, voire les moyens, dans l'objectif de faire apprendre les couleurs. Et puis, de ces premières expériences assez concluantes, et puis les professeurs des écoles étaient assez réceptifs, on s'est dit qu'on va mener d'autres expériences. Donc, on a eu quelques ressources pédagogiques et de l'aide, donc de la circonscription de Brest-Nord, qui nous ont un peu ouvert les portes des écoles. Et puis, également, grâce à la DGESCO, d'avoir un peu plus de contacts et donc de présenter un peu nos travaux. Donc, de ça, on a pu mener une deuxième étude en cours élémentaire en 2013, donc c'était l'année dernière, donc on a un premier résultat. Et on est actuellement, donc là, cette année, en train de mener une deuxième étude, la suite de la première. Et là, on va aller cette fois en cours préparatoire. Alors, pour illustrer tout ça, avant de faire tout un grand blabla, j'ai envie de vous présenter une petite vidéo. Donc on a une table interactive. Une table interactive, c'est une grande surface. Elle n'est pas tactile. On vient poser des objets. Et ici, l'application, c'est un exercice de mathématiques. On va y revenir. On est en classe. On a un petit atelier, là. Et donc une fois qu'on a expliqué le jeu aux enfants, on les a laissés travailler, on a regardé un petit peu comment ils travaillent. Derrière, ils ne sont pas particulièrement perturbés. Alors, ça me permet de switcher sur les interactions tangibles, parce que j'ai parlé d'interactions tangibles à contrario des interactions tactiles, mais finalement, qu'est-ce que les interactions tangibles? Eh bien, le tangible, donc la tangibilité, ça vient du latin tangibilis, et en fait, c'est ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut palper. Et donc, c'est un ensemble d'interactions qui sont permises grâce à des objets. Donc les principaux apports du tangible qui sont plus à présenter sont, on manipule des objets réels, donc ça a été proposé par Ishii Ulmer en 1997. Ça permet des manipulations plus naturelles, de plusieurs personnes. Et ça, ça a été proposé par Fitzmaurice et Buxton en 1997. Donc, les interactions tangibles, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans de nombreux domaines, des différents domaines, tels que la restauration, les musées qui sont très fervents de ça, puisque les musées présentent généralement des objets, et donc le fait de pouvoir utiliser, palper les objets directement, ça les intéresse. Les agences d'architecture, par exemple, ou immobilières, et puis également dans le domaine de l'éducation. Alors nous, on se pose un ensemble de questions, mais surtout une question de recherche, qui est dans quelle mesure l'utilisation d'une table interactive à objet tangible peut favoriser les interactions d'élèves avec un jeu sérieux. Alors je vais commencer par vous présenter un petit peu le jeu en lui-même, qui s'appelle le jeu des tours. Alors ce n'est pas un jeu qu'on a inventé, c'est un jeu qui a été proposé par Dominique Valentin en 2004. Donc ce jeu a plusieurs objectifs pédagogiques. Le premier étant que de faire comprendre aux enfants qu'un objet plus grand qu'un autre peut cacher ce dernier. Alors évidemment, c'est des objets de même forme. Si je prends deux gobelets par exemple, un gobelet plus petit et un gobelet plus grand, si je mets le gobelet plus grand devant, il va cacher celui qui est derrière. Également, utiliser des informations numériques dans un cadre spatial. Et enfin, prendre en compte plusieurs contraintes. Donc ça, on verra le prendre en compte plusieurs contraintes sur ce jeu. Alors d'un point de vue matériel, c'est assez facile. En classe, habituellement, ils utilisent les petits cubes. Alors j'ai remarqué là dans la présentation tout à l'heure, il y avait également les fameux petits cubes. Donc il y a des petits cubes empilés qui permettent de faire des tours, donc de hauteur 1 à 5. Donc on a 5 tours, 5 hauteurs de tours différentes. Et puis des plateaux de jeu qui peuvent aller de la bandelette, donc il y a une bandelette ici représentée, jusque des grilles. Donc ici, par exemple, on a des grilles de 3 par 3. Et on est en classe actuellement, c'est utilisé sous format papier. Les règles sont relativement simples. Donc on a, si je prends l'exemple de la bandelette ici, on doit placer des tours, donc les tours qu'on donne aux enfants, de manière à respecter les contraintes, c'est les petits chiffres qu'on voit aux extrémités de la bandelette, de manière à ce que si je me positionne selon le petit bonhomme rouge, je vois une tour. Là, c'est écrit 1. Et si je me positionne en fonction, selon le point de vue du petit bonhomme vert, je dois avoir 5 tours. Donc on donne à disposition les tours de tailles différentes et les enfants doivent positionner les tours de manière à ce que si je me positionne ici, j'en vois une, la plus grande. Si je me positionne de l'autre côté du point de vue, je dois avoir 5 tours, de la plus petite à la plus grande. Donc ça, c'est l'exercice le plus simple sur la bandelette qu'on peut donner, par exemple. Alors, c'est effectué et utilisé en école maternelle avec les grands. On peut aller jusqu'au CE2 sur des grilles, par exemple, de 4 par 4. Et là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a les quatre côtés. Et lorsqu'on modifie une tour d'un côté, forcément, ça peut potentiellement modifier les quatre autres côtés. Et donc, on a proposé cette application ou ce jeu sur table interactive à objet tangible afin d'utiliser le potentiel de ces fameuses nouvelles technologies telles que les tables interactives. Alors on a implémenté ce jeu, donc l'implémentation a été effectuée dans le cadre de projets, donc des projets agiles que je mène au sein de l'École nationale d'ingénieurs de Brest, là où je fais mes enseignements. Et donc j'ai proposé à mes étudiants un projet développement en informatique qui était ce jeu. Donc, il a été développé durant printemps 2013 et automne 2013, mais finalement en 12 séances, parce qu'ils ont un mercredi, chaque mercredi, durant 12 séances. Donc, 12 séances au printemps, on a une première version, et 12 séances en automne 2013, qui a permis d'avoir une seconde version. Donc, d'un point de vue informaticien, là, c'est du langage Java qui a été utilisé. Et ce qui est développé pour l'instant, donc, c'est la configuration complète de l'application, la génération automatique des grilles et surtout l'algorithme de vérification, parce que ce n'est pas le tout de produire une grille, mais si elle n'est pas faisable, ça devient très compliqué. Donc il y a l'algo de vérification. Il y a les algorithmes de correction, que ce soit par ligne, par colonne ou par grille. Donc là, ça peut intervenir pour aider les enfants lorsqu'ils travaillent dessus. Des algorithmes d'aide également. La génération de feuilles de résultats, qui là, est directement à viser des enseignants. C'est-à-dire que si on est en atelier autonome, que l'enseignant lance l'atelier, les enfants travaillent dessus, il a possibilité, après l'exercice, d'avoir une trace sur ce qui s'est passé durant tout l'atelier, finalement, et à partir de où, s'ils se sont trompés, par exemple, ils se sont trompés, et essayer de comprendre avec eux pourquoi ils se sont trompés. C'est le fameux rétroaction qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a la gestion des tags RFID, ça, je vais en parler très rapidement, c'est parce que notre table interactive reconnaît les objets par l'intermédiaire de la technologie RFID. Donc, chaque objet est tagué, possède un tag en dessous, et lorsque je pose l'objet par la table le reconnaît. Je vais passer les aspects techniques. Et enfin, il y a tout le côté graphique et sonore que vous avez vu déjà en vidéo. Donc, l'application telle que les enfants l'utilisent, l'application telle que l'enseignant peut l'utiliser, et également un retour visuel et sonore pour les enfants. Et puis, on s'est également posé la question de quels objets on va utiliser pour cette application. Et en fait, ça a été le résultat d'un petit brainstorming entre nous, mais également avec les professeurs des écoles, parce qu'il faut savoir qu'on a mené cette expérience en partenariat avec les professeurs des écoles. Donc, on a eu un ensemble d'échanges, on est allé les voir, ils sont revenus, on a avancé comme ça, de manière incrémentale. Et puis, pour les objets, justement, on avait proposé plusieurs choses. Donc, par exemple, l'utilisation de petits cubes en bois ou de tours en bois. L'avantage, c'était relativement peu coûteux. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça nécessitait des heures de conception et puis surtout un respect strict d'un point de vue sécurité. Tout ce qui est peinture, vernis, etc. On sait qu'on est à destination des enfants, ils peuvent lui mettre dans la bouche, etc. Bref, c'était un petit peu compliqué. Après, on est un laboratoire de recherche, on possède un certain nombre de matériel, et puis les nouvelles technologies maintenant font qu'on peut même imprimer des objets. C'est ce qu'on appelle les imprimantes 3D, qu'on commence à voir petit à petit. Donc on a fait quelques essais, et finalement ça n'a pas été tellement concluant, en tout cas avec celles qu'on possédait, pour la simple et bonne raison que, d'un seul coup, le coût devenait très élevé pour construire un objet. Par contre, l'avantage ici, c'était d'un point de vue design, on pouvait imaginer tout et n'importe quoi, puisque finalement, on avait un modèle 3D, on faisait imprimer l'objet et on récupérait l'objet ensuite. Et puis finalement, sans vouloir faire de pub, on a utilisé des objets qui sont déjà utilisés en école d'ailleurs, donc les Lego, qui ont l'avantage d'être peu coûteux, qui sont relativement sécurisés puisqu'à destination des enfants, et surtout modulables, donc on peut faire un ensemble d'objets différents à l'aide de ça. Et donc on peut voir ici les différents objets avec lesquels les enfants vont pouvoir travailler. Donc on retrouve les tours, de la plus petite à la plus grande ici, et puis un ensemble d'objets qu'on a appelés des objets interacteurs, qui permettent d'interagir avec l'application, par exemple de demander de l'aide, donc c'est ici le point d'interrogation qu'on ne voit pas tellement bien, l'objet ici, le check vert qui est à l'envers d'ailleurs, qui permet de valider notre grille, et puis là, cet objet qui remplace le petit bonhomme que vous avez vu sur la version papier, qui permet de se positionner selon un certain point de vue sur la grille ou sur la bandelette pour pouvoir réussir l'exercice. Et donc derrière tout ça, on a mené une étude exploratoire en études élémentaires que va présenter mon collègue.
Merci. Donc moi, je vais vous présenter l'étude exploratoire qu'on a menée en 2012 dans deux écoles primaires de Brest, l'école Paul Ducas et puis l'école Paul Langevin. Donc c'est une étude qui s'est menée en cours élémentaire première année. Alors, je vous présente. C'est une école. Ces deux écoles nous ont été accessibles par l'intermédiaire d'un conseiller pédagogique. Et donc, on a pu travailler pendant la période où on était disponible avec 11 élèves. Et on a travaillé là avec 11 élèves de cours préparatoire. Il y avait 9 filles et 2 garçons, avec une moyenne d'âge de 6 ans et 11 mois, et un écart type entre les élèves d'environ 4 mois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les élèves ont été répartis de manière aléatoire dans 3 groupes. Et ils ont, dans un premier temps, pratiqué le jeu en classe, sous forme papier, et on a enregistré en vidéo leur activité. Et dans la même journée, ils ont pratiqué le même jeu sur la table interactive avec objets tangibles, Et on a aussi, à cette occasion, enregistré en vidéo leurs activités. Ce que l'on a mesuré dans les vidéos, et le facteur qui nous intéressait, c'était les temps d'interaction entre les élèves et les tours. Et on a essayé de voir si ces temps d'interaction variaient d'une situation à une autre, dans les deux conditions de pratique du jeu. Alors, je vais vous présenter quelques-uns des résultats. Alors, on travaille avec de faibles échantillons, hein, donc on verra les limites de l'étude. Donc, ça nous a fait trois groupes, et puis un résultat d'ensemble. Qu'est-ce que l'on peut constater ? Ce qu'on constate, c'est une augmentation des interactions entre les élèves et les tours. Donc, ils manipulent plus souvent les tours en situation de pratique sur jeu sur table comparativement à la situation de pratique en classe. Par exemple, le groupe 1 va manipuler les tours 36% du temps et par contre, son temps de manipulation des tours sur table est de 94%. Le groupe 2 va manipuler les tours en classe aux alentours de 27%, et puis son temps de manipulation sur table passe à 49%. Même chose pour le groupe 3, et sur l'ensemble, on a à peu près le double de temps d'activité, le temps d'interaction avec les tours, entre la situation en classe qui est à 22,54% et puis la situation sur table qui est approche de 44%. Donc il passe plus de temps sur table interactive à manipuler les tours. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on a dégagé. Le second résultat qu'on a dégagé, c'est en comparant le type d'activité entre les groupes. Et on s'est aperçu que leurs activités étaient plutôt de type asynchrone lorsqu'ils pratiquaient en classe et plutôt de type synchrone lorsqu'ils pratiquaient sur table. C'est-à-dire que là, on a pris un exemple avec le groupe 2, mais on retrouve ce phénomène. Ces bandelettes-là sont des bandelettes de temps d'activité. Donc là, alors les codes qui sont ici sont des codes d'anonymat que l'on donne aux élèves. Donc le 0201, c'est un élève du groupe 2. Le 0202, c'est le deuxième élève, troisième élève, quatrième élève. Et on les retrouve ici sur la table. Alors ce qu'on constate, ces bandelettes représentent des temps d'activité. Donc ici, on constate que sur le jeu en classe, un élève va manipuler les tours seul pendant un certain temps. Puis ensuite, c'est un autre élève qui arrête son activité, qui la reprend, puis ensuite un autre élève. Et donc leurs activités sur le jeu en classe sont plutôt de type asynchrone. On manipule les tours les uns après les autres. On ne retrouve pas ce diagramme sur le jeu sur table interactive. Sur table interactive, on observe au contraire des chevauchements d'activités, et c'est montré aussi à travers les vidéos, les élèves manipulent les tours en même temps. Voilà. Donc leurs activités sont plutôt de type synchrone. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième enseignement, deuxième résultat. Et puis, le troisième résultat, c'est la répartition des interactions. On a constaté que les interactions étaient inégalement, l'augmentation du fait de manipuler les tours était inégalement répartie selon les élèves. Alors là, j'ai pris un exemple avec le groupe 1, avec deux élèves du groupe 1 et deux élèves du groupe 3, et on constate que le 1 des élèves du groupe 1 voit son pourcentage d'interaction passer de 1,29 à 4,36 sur la table, quand son camarade du groupe, le 0,104, le quatrième élève, lui a un temps en classe de manipulation des tours de 3,88, et son temps augmente à 44,04 sur la table interactive. Même chose sur le groupe 3, l'élève numéro 2, alors il y a une erreur, hein, si c'est l'élève numéro 3, l'élève numéro 2 n'a pas du tout manipulé les tours en classe. Par contre, il a manipulé 1% en surtable interactive, et le 0203 a manipulé à 5% à peu près d'interaction avec les tours, et ça passe à 10%. Donc ce résultat nous montre que si augmentation de manipulation des tours il y a, cette augmentation n'est pas distribuée de manière égale entre les élèves. Alors, quelques éléments de discussion de cette première étude exploratoire et de ces résultats. La première chose que l'on pourrait avancer, c'est que cette augmentation des interactions pourrait boucler avec une littérature qui nous montre que les nouvelles technologies sont des éléments d'affordance de l'environnement. C'est-à-dire que ce soit des tablettes interactives ou que ce soit ces nouveaux dispositifs agissent comme une affordance, c'est-à-dire qu'elles invitent les élèves à l'action, et cette invitation à l'action pourrait expliquer qu'ils aient manipulé plus souvent les tours sur table interactive qu'en salle de classe. Deuxième élément de discussion, et je vais l'illustrer par une vidéo, c'est la question de l'équité de participation. Donc j'ai terminé les résultats en montrant que l'activité augmentait entre la classe et la table interactive, mais ça augmente de manière inégale. Alors, est-ce qui nous fait dire que le simple fait d'utiliser la table interactive et de laisser les élèves agir ne garantit pas que tout le monde va avoir la même chance d'agir? Voilà, et on va voir une vidéo, et je voudrais qu'on regarde la jeune fille qui est ici, et puis les deux garçons, et qu'on voit un phénomène qu'on a observé dans ce groupe, et qui pourrait expliquer l'inéquité des participations dans l'utilisation du numérique en classe. Voilà, donc on voit que dans ce groupe, les deux garçons vont faire des tentatives pour essayer de placer des tours, mais qu'il y a une jeune fille en particulier qui va prendre le temps d'activité pour elle. Donc ça explique un petit peu nos résultats, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation dans le groupe de l'interaction avec les tours, mais que cette interaction, elle est inégalement répartie. Et donc ça boucle avec une littérature, on a aussi toute une littérature sur le fait que le numérique... Pour autant, l'introduction numérique ne garantit pas que dans les interactions, dans la possibilité de jouer, il y ait une équité pour les élèves d'interagir avec le numérique. Donc là, on le voit à travers cette étude exploratoire, encore une fois, et on le voit dans cette vidéo. On a eu plusieurs cas comme ça où un ou deux élèves prennent le jeu à leur compte et finalement, les interactions des autres n'augmentent pas et n'ont pas d'opportunité pour pratiquer. Et puis... le résultat qui nous montre que l'activité est plutôt synchrone sur table interactive boucle avec un autre élément de la littérature qui est que ces outils numériques peuvent favoriser la collaboration. Effectivement, à partir du moment où on peut manipuler ensemble, alors on serait plus enclin à coopérer pour apprendre. Voilà, je vais terminer par les limites et les perspectives de cette étude. Donc, je rappelle, c'est une étude exploratoire. On a travaillé avec 11 élèves. Notre perspective, c'est qu'aujourd'hui, on a mesuré les interactions. En aucun cas, on peut dire des choses sur l'apprentissage. Ce qu'on peut dire, c'est que les élèves ont manipulé plus les tours, mais en aucun cas, on peut dire qu'ils ont plus appris. D'accord ? Donc ça, c'est un élément à garder en tête. L'autre élément, c'est que ce n'est pas parce qu'on manipule les objets en même temps que l'on collabore et que l'on apprend à collaborer. Donc il y a une différence entre ils manipulent en même temps, mais pour autant, on n'a pas d'indicateur sur le fait qu'ils aient collaboré pour apprendre. Et puis, on est plutôt sur un prototype de jeu sérieux sur table interactive, et que ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est passer de ce prototype, de cette conception, à un jeu sérieux qui inclurait des outils qui permettraient la validation et l'aide. Voilà, donc pour les élèves.